Rencontre littéraire. Écrivain de renommée internationale, Jean-Philippe Toussaint ne se limite pas à la littérature et ses activités s'étendent à plusieurs domaines. Il est également cinéaste, photographe et plasticien qui mène ses riches activités dans plusieurs pays. Récemment, il est venu avec ses collaborateurs à Prague où il a présenté son site internet conçu comme une œuvre d'art. Voici la seconde partie de l'entretien que Jean-Philippe Toussaint a accordé à cette occasion à Radio Prague. Vos voyages vous ont amené dans de nombreuses villes, Berlin, Rome, Tokyo et aussi à Prague. Vous avez rapporté de votre première visite à Prague un mauvais souvenir que vous évoquez dans votre livre Autoportrait à l'étranger, n'est-ce pas ? Prague vous donne toujours cette mauvaise impression ?
Oui, de façon très impertinente, le chapitre qui s'appelle « Prague » commence par cette phrase « Prague, n'en parlons pas ». Le chapitre consacré à Prague se passe pratiquement entièrement dans la gare de Dresde, c'est-à-dire en route vers Prague. Et oui, je dois dire que j'ai été déçu par Prague lors de mes premières visites. Et il se trouve que hier, là, je suis arrivé à Prague hier après-midi, et on est parti du château pour descendre dans la ville, et on a fait une longue promenade d'une demi-heure. La nuit venait de se coucher, puis on a été manger dans un excellent restaurant de Prague, et puis on est remonté à pied. Et je n'avais jamais eu ce sentiment de calme, de beauté. J'ai découvert la beauté, le charme de Prague, et je l'ai découvert donc à 57 ans, parce que j'étais beaucoup plus sévère avant. C'est un peu une sorte de rendez-vous manqué avec Prague. Mais il se trouve qu'il y a aussi ma traductrice tchèque, Jovanka Sotolova, qui a traduit tous mes livres depuis le début, qui a été présente à toutes les rencontres de Senef en Belgique où je travaille avec mes traducteurs, qui est devenue une amie, qui a travaillé aussi au site internet que je fais. Et c'est pour ça qu'on est à Prague aujourd'hui. Donc j'ai finalement découvert la beauté de la ville. Il a fallu le temps, mais c'est une vraie révélation. Et puis, je dirais même, bon, c'est un détail, mais le beau temps d'aujourd'hui, alors qu'en plus la météo annonçait du mauvais temps, le beau temps d'aujourd'hui est une très très bonne surprise.
Vous avez été traduit dans une vingtaine de langues. Comment expliquez-vous cette réception favorable de votre œuvre dans le monde ?
C'est surtout en Asie que ça a été surprenant. C'est l'accueil extraordinaire qui a été fait à mes livres au Japon au début des années 90, qui était le pays au monde où je vendais le plus de livres. Un succès incroyable pour mes premiers romans, La salle de bain, Monsieur, l'appareil photo, qui ont été un succès incroyable au Japon, qui m'a fait découvrir le Japon, parce que c'est à cause de ce succès que j'ai été invité, que les universités faisaient appel à moi, que l'éditeur m'invitait à chaque sortie de nouveaux livres, que mes films sont sortis au Japon. Donc le succès de mes livres au Japon m'a fait connaître mieux le Japon. Donc c'est un peu mystérieux ce succès, mais il se trouve que ce succès au Japon s'est répété en Chine. C'est également le cas en Corée, donc il y a quand même quelque chose d'assez mystérieux. Mes livres sont très bien reçus en Asie. Alors, une des explications, c'est que peut-être je m'intéresse à des choses très quotidiennes, mais qui en même temps, il y a une dimension métaphysique, il y a une dimension philosophique ou universelle. Et ce mélange-là, c'est peut-être une des choses qui peut expliquer le succès que mes livres ont rencontré en Asie.
Quand vous écrivez, pensez-vous à ceux à qui vous allez adresser votre livre ? Est-ce que vous vous adressez à un public international ?
Oui et non, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il y a sans doute une sorte de lecteur idéal, mais je ne le définis pas vraiment. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ce n'est pas centré sur un lecteur français ou francophone. Je sais que mes livres sont traduits, ils ont toujours été traduits, à part le premier que j'ai écrit. Je m'adresse à un lecteur universel qui n'est ni chinois, ni tchèque, ni français, ni américain. C'est un homme, un être humain. Et je parlais à propos de Beckett d'une fraternité humaine. C'est un peu ça que j'essaye de créer. J'aimerais créer avec le lecteur une fraternité humaine. et qui n'a rien à voir avec la langue proprement dite, qui est au-delà de la langue. C'est qu'il y a des caractères, il y a un caractère universel dans certains traits humains, et c'est ça que j'essaie de créer avec le lecteur, une complicité humaine.
Vous avez parlé de votre traductrice en tchèque, Jovanka Šotolová. Surveillez-vous les traductions de vos œuvres?
Oui, non, je ne surveille pas, d'ailleurs je n'aurais pas les moyens de surveiller. Par contre, je suis très attentif et très actif, surtout au collège de Senef en Belgique, qui accueille des traducteurs. Et grâce à Françoise Villemard, qui est la directrice de ce collège, j'ai pu depuis 2000 faire 5 sessions de travail avec mes traducteurs autour d'un livre particulier. Donc par exemple, pour le cycle de Marie, nous avons fait des sessions pour chacun des livres. Et chaque fois, il y avait une dizaine de traducteurs présents autour de moi et on faisait des séances de travail. Et Jovanka Šotolová était présente à chaque fois. C'est peut-être une des plus fidèles avec la traductrice des Pays-Bas, Marianne Kaas, qui était là aussi à chaque fois. Ce qui est fascinant, c'est que chaque traducteur a des questions par rapport à sa propre langue, par rapport à sa propre lecture du livre. Mais mes réponses sont faites collectivement. C'est-à-dire qu'on se réunit tous les matins à 11h, chaque traducteur pose ses questions, mais moi je réponds à l'ensemble du groupe. Et donc le traducteur japonais ou chinois peut tirer quelques enseignements de ce que je dis à la traductrice hollandaise, et ainsi de suite. Mon rôle se limite à essayer d'expliquer le mieux possible mes intentions par rapport au texte français. Je n'ai pas à intervenir dans la langue des traducteurs.
Vous êtes écrivain, mais vous êtes aussi cinéaste. Avez-vous besoin de donner une forme visuelle à ce que vous avez écrit?
Oui, mon imagination a toujours été visuelle. C'est toujours par image que je procède. Et c'est vrai que j'ai mené très tôt les deux activités ensemble, écrire, faire des films. Maintenant, ça a un peu évolué. Je fais plus des films au sens classique, des films en 35 mm, avec des gros moyens. Je fais plutôt des vidéos qui sont généralement plutôt montrées dans des musées que dans des salles de cinéma. Mais je continue à avoir envie de faire des images. Et ça reste aussi une grande passion pour moi, aussi grande que d'écrire des livres, de faire des films.
On dirait que vous étiez en mauvais termes avec certains moyens de la technique moderne, la télévision, le portable par exemple. Vous en parlez dans vos livres. Et pourtant, vous venez aujourd'hui à Prague pour présenter un projet basé sur les nouveaux médias. Est-ce un tournant dans votre rapport vis-à-vis de la technique?
Alors en réalité, j'ai toujours été très intéressé par tout ce qui produit de la forme. Et en ce qui concerne Internet, assez longtemps, je me suis dit que ça ne produisait pas une véritable forme. Et que si, par exemple, un écrivain avait un site Internet, c'était simplement pour annoncer les rencontres qu'il allait faire dans tel ou tel endroit, de montrer quelques photos de lui avec quelques-uns de ses confrères, des choses très pauvres au point de vue de la forme, des sortes de pages Facebook améliorées, des choses comme ça. Mais j'ai beaucoup réfléchi. Comme je suis à la fois écrivain, cinéaste, photographe, je dispose d'un corpus très large avec des textes, des images vidéo, des images photographiques, et que je pouvais peut-être donner une forme particulière. Et donc avec Patrick Socquet, qui est un informaticien belge, il y a une vraie réflexion que nous avons menée ensemble sur qu'est-ce que pouvait être un site internet d'un écrivain qui propose une vraie forme. Et là, dans ce cas-là, ça m'a passionné parce que finalement, c'est quasiment l'équivalent d'une création, presque comme d'une œuvre d'art que nous faisons. C'est un travail qui est intéressant parce qu'il propose une forme nouvelle et une forme qui est spécifique à Internet. Et ça m'intéresse, alors que, en général, je trouve que la technique est un peu, les objets techniques induisent plutôt une paresse intellectuelle et ne sont pas producteurs de formes nouvelles. Et que par exemple la télévision n'a pas apporté de vraies créations formelles spécifiques. Il existait déjà l'image animée. Certes, la vidéo pouvait être une vraie création artistique, mais pas la télévision. Et ainsi de suite. Mais pour Internet, j'ai longtemps observé avant de proposer mon propre site, et je crois que mon propre site propose une vraie création formelle, nouvelle et totalement spécifique à Internet.
Aujourd'hui, vous êtes lauréat de plusieurs prix littéraires et membre de l'Académie royale de Belgique. Dans quelle mesure ces distinctions et ces marques de reconnaissance publique sont-elles importantes pour vous?
Elles ne sont pas particulièrement importantes, mais c'est agréable de savoir que mon travail est reconnu. Mais entre nous, je le savais qu'il était reconnu. Et je crois que la publication et la traduction de mes livres à l'étranger a plus d'importance pour moi que les récompenses ou les honneurs. Mais je les accepte avec plaisir. Et je vais par exemple être reçu à l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique le mois prochain, parce que j'ai été élu déjà il y a un an, mais j'ai pas encore été reçu. Et voilà, c'est un honneur, et je vais essayer d'être à la hauteur de l'événement. Mais c'est assez anecdotique par rapport à ce travail autour des traductions qui me passionne véritablement et dans lequel on peut apporter vraiment une forme nouvelle.
Comment voyez-vous votre avenir littéraire? Peut-on parler de vos projets?
Alors, en réalité, je préfère parler de ce que j'ai déjà fait, et il y a déjà beaucoup à dire. Donc, je reste réservé sur ce que je n'ai pas encore fait. Épuiser toute la possibilité du projet en parlant au préalable. Donc je préfère garder toute l'énergie pour le projet lui-même et non pas pour en parler avant qu'il ne soit rendu public. Et je pense que c'est important. J'aime bien aussi, lorsque j'écris un livre, le garder secret, ne le montrer à personne, le relire tranquillement à mon rythme. Et souvent, il s'écoule un an ou un an et demi entre le moment où le livre est fini et le moment où je le donne à l'éditeur. Et pendant un an, il y a une sorte de période un peu curieuse où le livre est fini, il est écrit entièrement, et moi, je me contente de le relire, de le peaufiner, de vérifier des choses. Et il est complètement fini, mais personne ne l'a lu encore. Et j'aime ces périodes un peu intermédiaires.